tous. Donc déjà, je voulais remercier Monsieur Feuillâtre et Monsieur Ruchot. Je sais que j'ai déjà fait par le passé des formations pour des chefs d'établissement du monde agricole et je trouve que vous êtes vraiment à la pointe avec une vraie volonté à la fois d'être très respectueux des procédures. Et c'est vrai qu'en matière de lutte contre le harcèlement, je trouve que le monde de l'enseignement agricole est effectivement très dynamique et a mis en place très rapidement beaucoup de choses. Donc, on va voir ensemble. L'idée, c'est d'être assez pratique. Donc, je vais me présenter. Je vais vous faire un état des lieux de ce qui pose problème en matière de harcèlement. Et on va voir le cadre juridique qui est à la fois disciplinaire, et c'est là où vous avez évidemment un rôle crucial à jouer, et le rôle pénal. On voit bien que c'est le but de ces deux actions qui sont complètement différentes. Et après, l'idée, c'est de vous donner des conseils pratiques sur quoi mettre en place au sein de votre établissement quand vous avez un cas de harcèlement qui vous est signalé ou de violence qui vous est signalé par une famille. Alors déjà, juste pour me présenter, donc moi je suis maître Valérie Piau et j'interviens depuis 30 ans en matière de droit de l'éducation et de tout litige entre les établissements scolaires et les élèves. Et depuis ces dernières années, le harcèlement scolaire est malheureusement devenu une problématique pour laquelle les familles ou les établissements scolaires saisissent de plus en plus souvent mon cabinet. Il faut savoir que donc moi j'interviens également notamment par rapport à le nouveau numéro national de lutte contre le harcèlement, donc e-enfance. Donc vous avez mis le monde agricole de l'enseignement a mis en place un partenariat. Moi je suis au conseil d'administration d'e-enfance et c'est vrai que comme c'est le numéro national, ce partenariat avec le monde de l'enseignement agricole va vous permettre effectivement d'avoir un relais qui est très utile pour les familles et les chefs d'établissement. J'interviens aussi pour une association qui s'appelle Initia Droit. Alors peut-être que certains des chefs d'établissement qui sont là aujourd'hui, Initia Droit, c'est une association d'avocats bénévoles qui se rend dans les établissements scolaires et qui, en partenariat avec un professeur, va sensibiliser les élèves sur la problématique du harcèlement scolaire. Et surtout, en fait, comme c'est une problématique sur laquelle j'interviens depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, en fait, je suis intervenue lors de la mise en place de la loi de 2022 sur le harcèlement scolaire, puisque j'ai été auditionnée à plusieurs reprises par Monsieur le député Balanant, qui est le député qui a mis en place la loi contre de lutte contre le harcèlement. Et c'est vrai que comme je voyais moi la pratique les dysfonctionnements, ça a permis ça c'était
Reconnaître toi et reconnaître toi que des fois.
et positif de pouvoir élaborer de concert avec le député Balanant, essayer de mettre dans cette loi un encadrement qui permet aux chefs d'établissement, aux familles, d'avoir un cadre protecteur pour tous et des règles. Voilà. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour me présenter. Ce qui est vraiment important par rapport au harcèlement scolaire, c'est de se dire que pendant très longtemps, en fait, on considérait que l'école était un sanctuaire en dehors du droit. Donc finalement, il y avait assez peu de règles. Et en fait, il a fallu attendre 2000 pour qu'il y ait un code de l'éducation qui apparaisse, alors que par exemple, à titre de comparaison, le code Napoléon qui va régir le droit civil date de 1804. Et pour que dans le code de l'éducation, qui vous concerne aussi, puisque la lutte contre le harcèlement donc figure dans le code de l'éducation depuis 2022, il a fallu attendre 2022 pour qu'on dise qu'un élève dans un établissement, quel qu'il soit, que ce soit agricole, relevant de l'éducation nationale, privé ou public, ne doit pas subir des faits de harcèlement. Donc on voit qu'en fait, c'est vraiment très récent, 2022, et que pendant très 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 longtemps, la problématique du harcèlement, finalement, n'apparaissait pas dans le code de l'éducation, qui est ce qui régit la vie des 12 millions d'écoliers. Donc on voit que ça a été un cheminement qui a été assez long et finalement le droit c'est une protection contre l'arbitraire et on va voir ensemble comment mettre en place une protection qui soit effective et efficace dans vos établissements quant à une famille va vous signaler un fait de harcèlement. Alors, la première partie, je voulais quand même commencer par un état des lieux des faits de harcèlement pour lesquels moi, les familles ou les chefs d'établissement peuvent être amenés à me saisir. Parce qu'en fait, moi, si vous faisiez construire une maison, je verrais les maisons qui s'écroulent, enfin les maisons mal construites. Donc, moi, je vois ce qui ne fonctionne pas et les dysfonctionnements dans la mise en place. Alors, déjà, par rapport au monde de l'enseignement agricole, quand les familles m'appellent, souvent c'est des harcèlements parce qu'il y a pas mal d'établissements privés alors peut-être publics aussi sous forme d'internat. Et j'ai des faits de harcèlement avec des violences physiques qui parfois sont très graves, parfois même plus graves que dans pas mal de cas de harcèlement que j'ai pu avoir pour des établissements qui relèvent de l'éducation nationale. Donc c'est vrai que souvent c'est des internats, donc ce qui amène évidemment à ce que les élèves soient sous la surveillance et pendant le temps scolaire et le soir, etc. Donc en tout cas c'est des faits de harcèlement qui parfois sont vraiment avec des violences graves. On voit que une vraie peur des témoins pour témoigner, etc., dans ce que les familles ont pu me relater. Après, de façon globale, ça c'est important. En fait, maintenant, j'ai quasiment tous les cas de harcèlement qui sont portés à ma connaissance sont doublés d'un cas de cyberharcèlement. Donc, c'est vrai que c'est tout le problème et c'est ce qui amène des enfants à se suicider. C'est pour ça qu'on voit la gravité du harcèlement. Parce que, enfin, il y a longtemps, le harcèlement, ça se passait dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Et maintenant, malheureusement, avec les portables et les réseaux sociaux, en fait, les élèves, les apprenants vont être harcelés H24, le week-end, le soir. Et alors ça, je vous le dis et je vous le redirai. En fait, vous devez intervenir en cas de cyberharcèlement. Et j'ai encore trop de chefs d'établissement, là même, c'est arrivé même cette semaine ou la semaine dernière, quand les parents signalent que c'est du cyberharcèlement, on a encore un certain nombre de personnels éducatifs qui vont dire, voilà, comme ça se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mon problème. Or, vous devez agir en cas de cyberharcèlement. À partir du moment où ça impacte des élèves de votre établissement scolaire, et on verra également qu'avec notamment les nouvelles dispositions législatives sur votre pouvoir disciplinaire, vous devez intervenir en matière de harcèlement et de cyberharcèlement, même quand le cyberharcèlement touche, pardon, alors je ne sais pas si vous m'entendez toujours parce que moi l'écran, je ne vois plus personne. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours.
Si,
Oui, nous
c'est
sommes
bon,
toujours
on vous
ensemble.
entend. On vous entend.
Oui, parfait.
D'accord. Vous m'entendez toujours correctement?
Oui, tout va bien.
Oui.
Parfaitement.
Parfait. Le cyberharcèlement, vraiment. Vous dire, voilà, de toute façon, cyberharcèlement ou harcèlement, c'est la même chose. En fait, c'est une forme de harcèlement qui va être sur les réseaux sociaux, avec les téléphones. Et ayez le réflexe quand vous avez une famille ou un élève qui vient vous voir et qui vous parle de faits de harcèlement, de systématiquement lui demander s'il n'y a pas des choses sur les groupes WhatsApp de classe, les réseaux sociaux, etc. Parce que l'avantage, entre guillemets, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que vous, chef d'établissement, vous pouvez faire des captures écran. Donc ça, réflexe à avoir systématiquement. Après, comme le disait Monsieur Feuillâtre, par rapport à déjà le harcèlement, comme vous devez le savoir, c'est à peu près un élève sur 10, ce qui est énorme. Donc on voit que ça touche énormément d'élèves. Et ça touche, moi, des élèves de plus en plus jeunes, puisque les élèves, malheureusement, ont des téléphones portables dès le primaire. Donc, moi, je dirais que j'ai à peu près 30% d'élèves de primaire. Je dirais que j'ai 40% d'élèves de collège, avec effectivement beaucoup, beaucoup de problèmes quatrième, troisième, et à peu près 30% d'élèves de lycée, effectivement avec plus de problèmes en seconde. Donc, on voit que c'est une problématique qui se produit de plus en plus jeune. et que le cyberharcèlement maintenant est présent quasiment tout le temps. Et le harcèlement aussi, on va dire, est un peu genré dans les pratiques. Moi, ce que j'observe, c'est que les filles vont être plus souvent victimes de cyberharcèlement ou de harcèlement par diffusion de fausses rumeurs, diffusion de photos, etc. Donc, ça va être du harcèlement à connotation sexuelle. Ça peut toucher aussi des garçons, mais les filles en sont un petit peu plus victimes. En tout cas, moi, dans la pratique que j'ai pu, enfin, les cas que j'ai pu avoir. Et les garçons sont un tout petit peu plus victimes de harcèlement, parfois avec des violences physiques. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai pu observer. Voilà, après, il y a pas non plus voilà, ça peut être. Mais en tout cas, les filles, il y a plus souvent du harcèlement par diffusion de fausses rumeurs. Donc ça, c'est du harcèlement parfois qui est plus compliqué pour vous à identifier. On reviendra ensuite là-dessus parce que c'est de la violence psychologique. Donc ça va être des propos qui, en soi, si on vous traite une fois avec un mot insultant, c'est une chose, mais si c'est répété, des fois c'est des. En fait, le harcèlement va venir d'une répétition et il y a du harcèlement où ça va être des faits, un élève qui va se faire mettre la tête dans les toilettes, où là c'est un fait de harcèlement hyper violent, mais c'est aussi violent évidemment d'être harcelé par se faire traiter de pute sur un réseau WhatsApp par 30 élèves, mais là sur un réseau social vous aurez des preuves. Mais c'est parfois la même chose par des mots dans les classes, les intercours, etc. Donc ça, c'est ce que j'observe. Dans les signaux, moi, quand les familles viennent me voir, souvent le harcèlement apparaît. Alors déjà, il faut savoir que malheureusement, souvent les victimes de harcèlement ont énormément de mal à parler, que ce soit au sein de l'établissement scolaire ou que ce soit dans leur famille. Parce que le harcèlement, c'est des faits répétés à l'encontre d'un élève, par un groupe d'élèves ou par un élève, mais cet élève, souvent, enfin, cet élève n'est pas en capacité de répondre parce que souvent, il y a une situation d'emprise et il y a une certaine, parfois, alors que l'élève est victime, une sorte de honte à ne pas réussir à se défendre. Donc c'est vrai que souvent, quand j'ai des familles qui viennent me voir, parfois j'identifie une situation de harcèlement dont l'élève n'a pas parlé à sa famille et la famille n'en a pas parlé au chef d'établissement, avec des déscolarisations. Alors bon, ça, je pense que comme vous êtes vraiment à la pointe, c'est vrai que évidemment que quand un élève est absentéiste avec le CPE, etc., vous en discutez avec la famille. Mais en fait, comme vous le savez, le harcèlement impacte la santé et la scolarité. Et dans l'impact sur la scolarité, il y a la phobie scolaire avec une anxiété pour aller à l'école. Et donc, il y a des familles, déjà les élèves parfois ne leur en ont pas parlé, ne veulent plus aller au sein de l'établissement scolaire parce qu'en fait, ils ont peur. Et quand vous avez un cas d'absentéisme scolaire, c'est s'interroger, essayer d'interroger l'élève, notamment si le fait de ne pas venir à l'école peut être lié à une situation d'anxiété et de peur. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai des familles qui viennent me voir parce qu'ils ont reçu des mises en demeure du rectorat ou sûrement de la DRAF pour une déscolarisation. Et finalement, quand on creuse, c'est des faits de harcèlement scolaire qui n'ont pas forcément été identifiés parce que l'élève, par exemple, n'a pas osé en parler. Après, il y a parfois des cas alors moi j'ai des familles, alors ça on reviendra sur ce que vous pouvez faire en pratique, qui en ont parlé au chef d'établissement et il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de retour fait à la famille et du coup bah ils ne savent pas comment se comporter. Et après aussi dans les conseils de discipline, moi j'interviens pour défendre parfois des gens qui sont accusés de harcèlement. Et parfois, on retrouve des victimes de harcèlement. En fait, quand un élève est harcelé, qu'il subit des insultes, des moqueries, etc., il encaisse, et parfois, en fait, il va exploser. Et donc, il va y avoir des faits de violence. Et parfois, un élève qui, en fait, est harcelé, qui n'a pas forcément osé en parler, va se retrouver en conseil de discipline pour des faits de violence. Et quand on creuse, en fait, on se rend compte que, en fait, il est harcelé par une bande d'élèves depuis des mois, et que c'est une réaction, par la violence à une situation de harcèlement. Donc ça, c'est des cas que je vois assez fréquemment. Et après, il y a un sujet un peu tabou dont je veux quand même qu'on parle ensemble. Dans les cas qui font que les familles viennent voir un avocat ou viennent me voir, il y a le harcèlement de la part de personnel d'enseignement ou de personnel éducatif de façon plus générale. Donc, bien évidemment que 99,9% des personnels sont évidemment bienveillants, mais c'est malheureusement quelque chose qui peut arriver et ça reste un sujet tabou dans beaucoup d'établissements d'enseignement, un peu comme pendant très longtemps la pédophilie dans l'église, on n'en parlait pas. Et moi, ce que je vois en matière de harcèlement, je vois pas parfois des enseignants. Il y a eu le cas d'ailleurs avec une petite, je crois que c'était la petite Marion qui s'était suicidée et la porte d'entrée du harcèlement avait été le comportement d'une enseignante qui depuis a été mise en examen. Parce que j'ai des cas, par exemple, j'ai eu le cas hier d'un élève qui a des difficultés d'apprentissage et son professeur de français fait des remarques en disant tu ne comprends rien, que l'élève vraiment est incapable. Et du coup, en fait, ce type de remarque, qui heureusement, bien évidemment, est très rare, amène les autres élèves à se dire finalement on a un blanc-seing quand l'autorité fait des remarques humiliantes et vexatoires, ce qui est évidemment rare, mais qui peut exister, ça amène les élèves à se dire, ah ben là, on peut y aller, et du coup, l'élève finalement se retrouve un peu lynché par les autres élèves qui se disent finalement, on a un blanc-seing. Donc c'est aussi quand des familles vous alertent, et ce qui est compliqué, puisque quand c'est des membres de l'équipe éducative ou des membres enfin, ça peut être du personnel qui n'est pas forcément enseignant, c'est écouter, on verra comment, c'est aussi, voilà, apprendre au sérieux. Donc, ça, c'était l'état des lieux des cas de harcèlement et de dysfonctionnement que moi, je peux voir dans ma pratique. Donc, là, l'idée, c'est de voir le cadre juridique, puisque le droit, c'est une protection contre l'arbitraire, et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir lutter contre le harcèlement au sein de votre établissement scolaire. Donc, le cadre juridique, il est double. Le cadre juridique, il est au niveau disciplinaire dans votre établissement et au niveau pénal. Donc, on va parler d'abord de ce qui est très très important. S'il y a une chose à retenir dans ma conférence, c'est ce que je vais vous dire là. C'est qu'en fait, il faut vous dire qu'un élève qui vient dans votre établissement, c'est comme un salarié qui vient sur son lieu de travail, puisque c'est le lieu de travail de l'élève, et le salarié, on sait qu'il doit être protégé. Et le salarié, s'il signale des faits de harcèlement, comme l'élève qui va venir signaler des faits de harcèlement, en fait, il faut qu'il y ait une réaction, on va dire immédiate. Et quand je dis immédiate, il faut que vous puissiez réagir, on va dire entre 8 et 10 jours, entre le moment où on vous signale dans votre établissement des faits et les actions que vous allez entreprendre. Parce que l'action dans votre établissement, le but, c'est une action disciplinaire, de mettre en place des choses pour faire cesser les faits de harcèlement, éventuellement sanctionner s'il y a des faits de harcèlement celui qui commet et faire arrêter. Vous avez un seul objectif, c'est que les faits de harcèlement s'arrêtent et à très court terme. Et on voit les cas de suicide qui interviennent, c'est des harcèlements qui ont duré. Voilà. Donc vous, votre objectif, c'est ça. Parce qu'à côté, il y a l'action pénale. Et l'action pénale, c'est quoi? C'est on porte plainte, mais le but de l'action pénale, c'est la société qui se défend contre une infraction. Ce n'est pas vous, chef d'établissement, qui assurez l'ordre et la sécurité dans votre établissement, c'est la société avant tout qui se défend contre une infraction, contre quelqu'un qui commet une infraction. Et là, en fait, il faut savoir que l'action pénale, son but, c'est pas, voilà, c'est de condamner, mais à les délais actuels d'enquête et pour passer en jugement, il faut savoir que la police, des fois, c'est jusqu'à 6 mois pour convoquer, même pour auditionner, et pour avoir un jugement en matière pénale, des fois, c'est 1 an ou 2 ans. Et il faut savoir que Moi, je vois quand les gens viennent me voir, vous avez 80, on va dire 18% des familles, ils ne veulent pas porter plainte. Les familles, tout ce qu'ils veulent, c'est que leur enfant soit en sécurité et qu'il y ait des mesures prises au sein de l'établissement qui font que le harcèlement s'arrête. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a déjà, il n'y a pas d'identité, ce n'est pas le même but, et que beaucoup de familles, de toute façon, ne porteront pas plainte. Parce que, en fait, elles n'ont pas envie d'aller au commissariat. En fait, tout ce qu'elles veulent, elles vous font confiance, un peu comme un médecin qu'on va avoir en disant quel est le meilleur traitement. Quand l'enfant, l'élève a eu le courage de parler, tout ce qu'elles veulent, c'est que vous, entre guillemets, en bon père de famille, vous apportiez une solution à très court terme pour assurer la sécurité de l'élève dans l'établissement, comme si un salarié, l'employeur, va assurer sa sécurité sur son lieu de travail. Donc en fait, il faut vraiment vous dire que votre objectif, vous, c'est un objectif de rapidité d'intervention dans votre établissement et c'est de prendre des mesures disciplinaires pour que, et on va voir, pour essayer de faire cesser le harcèlement. Et le pénal, c'est autre chose. Donc on verra un petit peu ce qui se passe en pénal, mais finalement, vous, le pénal, c'est pas votre job. Vous, votre job, c'est de faire arrêter le harcèlement parce que personne ne peut le faire à votre place. Donc, c'est vrai que c'est une énorme responsabilité. La police n'arrêtera pas le harcèlement. La police, il va y avoir l'enquête, le procureur peut décider de poursuivre, mais ça va prendre peut-être 1 ou 2 ans. Donc, il n'y a pas identité d'action. Et vous, votre domaine d'action, il est au niveau de votre établissement scolaire. Donc, dans le cadre juridique, il y a deux pans. Depuis la loi de 2022. Donc, il y a le point dans le droit de l'éducation sur le fait que tout élève dans un établissement scolaire, quel qu'il soit, privé, public, agricole ou pas agricole, doit être protégé contre le harcèlement. Et c'est vrai que, comme je vous le disais, ça date de 2022, donc on voit à quel point c'est récent. Donc, c'est l'article L. 111-6 éducation de 2022 qui dit aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou effet de porter atteinte à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du Code pénal. Donc cet article, en fait, il grave, il écrit dans le marbre qu'aucun élève ne doit être harcelé dans son établissement scolaire. Et il faut savoir que le juge administratif a même dit, il avait été saisi en référé par une famille, que maintenant c'est une liberté fondamentale de ne pas être harcelé à l'école. Donc vraiment, vous avez une obligation d'agir parce que c'est une liberté fondamentale d'aller, quand on est élève, dans son école en sécurité, de même qu'un salarié est sous la responsabilité de son employeur et doit être en sécurité quand il se rend sur son lieu de travail. Et vous, en tant que chef d'établissement ou CPE, etc., en fait, le code rural a mis en place un article qui est très clair sur finalement votre entre guillemets obligation d'agir en matière de harcèlement. C'est l'article R811-83-89. Non, excusez-moi. R811-83-9 sur votre pouvoir disciplinaire. Et cet article dit bien qu'en fait, vous êtes titulaire de ce pouvoir, mais vous avez une obligation de faire une procédure disciplinaire. Donc, ce n'est pas une option, c'est une obligation dans les trois cas que je vous lis. Un, lorsque l'élève est l'auteur de violences verbales à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou lorsqu'il commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. Deux, lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave au principe de la République, notamment au principe de laïcité. Et trois, c'est là où c'est vraiment une obligation pour vous, lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. Donc vraiment, vous avez une obligation de prendre des mesures disciplinaires une fois que vous aurez mis en lumière des faits de harcèlement. Donc là, vous pourrez exercer ce pouvoir disciplinaire. Comme vous le savez, vous pouvez l'exercer seul, excusez-moi, vous pouvez l'exercer sans réunir de conseil de discipline. La seule sanction que vous ne pouvez pas prononcer est l'exclusion définitive. Et toujours le même article R811-83-9, vous êtes obligé de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel ou un élève a été victime de violences physiques. Donc en fait, quand il y a un fait de harcèlement, puisque le code de l'éducation, l'article L116 dit bien qu'en fait, aucun élève ne doit être harcelé, quand vous avez, vous, en tant que chef d'établissement, identifié des faits de harcèlement, vous devez engager une procédure disciplinaire. Vous êtes en droit de l'engager sans faire de conseil de discipline, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas exclure, en réunissant un conseil de discipline qui est seul le compétent pour prononcer l'exclusion définitive de l'élève. Mais si, notamment, le harcèlement s'est traduit par des violences physiques, à ce moment-là, vous devrez saisir le conseil de discipline, puisque que ce soit un membre du personnel ou un élève victime de violences physiques, il faut qu'il y ait un conseil de discipline. Donc ça, c'est l'aspect disciplinaire au sein de votre établissement, et c'est ça qu'on va voir dans la dernière partie, en pratique, comment faire quand vous recevez une famille et quoi mettre en place. Après, il y a le deuxième aspect qui est l'aspect dans l'arsenal juridique, c'est l'aspect pénal. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, l'aspect pénal, en fait, c'est pas de votre ressort, mis à part le signalement qu'on va voir ensemble. Donc, l'aspect pénal, qui va durer à peu près, on va dire, entre 6 mois d'enquête et 2 ans pour avoir une condamnation, c'est pour ça que vous ne devez pas attendre le résultat du pénal, d'une plainte pénale, parce que j'ai encore trop de chefs d'établissement quand l'élève ou la famille porte plainte, qui vont dire, ah bah stop, on attend de savoir ce que ça donne. Non, non, vous, c'est vous qui avez le pouvoir dans votre établissement. Et donc, on en reparlera notamment en détail dans un autre bloc, mais en fait, le temps du pénal n'est pas le temps, vous, de votre réaction disciplinaire. Donc le pénal, donc ça c'est vraiment une grande nouveauté. On s'était beaucoup battu, le député Bialbalan s'était battu, parce qu'avant, en fait, il n'y avait pas d'infraction de harcèlement scolaire. Donc on avait beaucoup de familles, quand ils allaient au commissariat, un peu déjà comme les femmes battues, des fois on a du mal à obtenir que le commissariat, pendant longtemps, prenne des plaintes. Quand une famille arrive au commissariat en disant je veux porter plainte pour harcèlement, parfois, enfin même souvent, enfin c'est arrivé à pas mal de familles, on leur disait, bah, écoutez, circulez, il n'y a rien à voir. Parce qu'il y avait l'infraction de harcèlement moral et qui était générale. Et donc, avec cette loi de 2022, il y a une infraction spécifique de harcèlement scolaire, et c'est l'article donc 222-33-2-3 du Code pénal, qui dit, je vous le lis, constitue un harcèlement scolaire. Les faits de harcèlement moral, donc ils sont décrits, donc des faits répétés qui altèrent la santé, la scolarité, etc., lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne, étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement. Et vous voyez que l'infraction, elle concerne un harcèlement entre élèves ou un personnel, ou excusez-moi, ou une infraction qui peut émaner d'un personnel de l'établissement scolaire. Et il faut savoir que cette infraction, avec malheureusement, on voit les suicides, les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Voilà, donc on voit que les peines sont très lourdes. Il faut qu'il y a, il y a, le but aussi de cette infraction, c'est qu'il y ait un effet dissuasif et que pendant très longtemps, quand des élèves se plaignaient de harcèlement, la réponse c'était oui, bah, c'est des choses entre enfants, des broutilles, on a tous vécu ça. Et maintenant, on voit que c'est vraiment très pris au sérieux. Et donc, vous, chef d'établissement, ce n'est pas vous qui pouvez porter plainte. En fait, quand une famille au niveau pénal vient vous voir pour vous signaler des faits de harcèlement, vous pouvez expliquer à la famille que, en fait, la victime peut porter plainte. Donc, ce n'est pas vous, chef d'établissement, qui portez plainte pour des faits de harcèlement, c'est la famille. La famille peut soit porter plainte. Donc, porter plainte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va au commissariat, on dit voilà, je suis victime d'une infraction, et la police, elle est obligée d'enquêter. Et après, une fois qu'elle a enquêté, elle peut soit classer sans suite. En fait, la police va envoyer au procureur. Et le procureur, qui est le représentant de l'État pour voir s'il y a une infraction, peut soit classer sans suite, soit décider de poursuite pénale. La famille, elle peut aussi faire ce qu'ils appellent une main courante. En fait, quand on est victime, notamment de harcèlement ou témoin aussi, on peut faire une main courante. En fait, une main courante, c'est une déclaration à la police. Et moi, je sais que sur des faits de violence grave, dans des harcèlements, avec notamment des violences qu'on peut constater, moi, je pense que la famille peut avoir intérêt à porter plainte, parce que la médecine, l'unité de médecins, puisque la police va constater les violences et les marques physiques. Et mais parfois, quand c'est des violences morales qui ne sont pas évidentes à prouver, pour prouver qu'il y a une répétition, la famille peut aller au commissariat faire une première main courante en disant voilà, on m'a traité de pute, on m'a traité de grosse, on m'a traité de moche, voilà ce qui s'est passé, etc. Et la famille peut faire une ou deux mains courantes et après, ça constituera un dossier pour prouver la réalité. Donc la famille, mais pas vous, peut faire des plaintes, la famille peut faire des mains courantes, et vous, par contre, ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire, il y a deux choses. Il y a une chose que vous devez faire, c'est vous devez faire un signalement, article 40 du Code de procédure pénale. Donc, ce signalement, il est obligatoire pour tout fonctionnaire quand vous devez le faire ce signalement immédiatement. Quand vous avez connaissance de fait qu'il y aurait un crime ou délit. Donc, il faut savoir que maintenant, le harcèlement, c'est un délit. Mais attention, on ne vous demande pas d'avoir des preuves incontestables, on vous demande d'avoir des éléments que vous transmettrez au procureur. Et après, c'est le procureur qui décide ou pas de diligenter une enquête et qui décide ou pas de poursuite. Alors, je ne sais pas si. Alors, je sais qu'il y a des modèles, notamment dans Éduscol, de signalement d'article 40, mais peut-être que la DRAF ou le ministère met à votre disposition ce type de modèle. En tout cas, il y en a dans Éduscol. Et donc, l'article 40 que je vous lis, donc c'est l'article 40 du Code de procédure pénale, il dit. Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à l'ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 41. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, donc il faut savoir que maintenant c'est un crime, excusez-moi, c'est un délit, pardon, le harcèlement scolaire. Est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Donc si donc voilà le signalement. Donc vous ne portez pas plainte, mais vous signalez au regard de l'article 40. Donc en fait, c'est quand vous avez connaissance d'une infraction. Donc si vous avez connaissance de fait de harcèlement, puisque ça constitue un délit, c'est quand vous avez connaissance d'une infraction qui constitue un délit ou un crime. Et le harcèlement, c'est un délit, c'est pas une contravention. Donc si vous avez connaissance de fait de harcèlement, vous pouvez donc, enfin, vous-même, vous devez signaler à ce moment-là les faits de harcèlement ou les faits de violence, s'il y a des violences graves. Vous envoyer donc avec une documentation ce que vous aurez pu réunir. Vous pouvez dire, bah voilà, on verra ensemble comment faire des rapports d'incidents, etc. Et après, par contre, c'est pas vous qui portez plainte, c'est le procureur qui décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Donc ça, c'est une obligation de signalement. Et moi, je sais que j'avais participé à l'époque, c'était Madame Borne qui était première ministre, à l'annonce du plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. Et dans les préconisations, il y avait, par rapport à l'aspect pénal, de développer ces signalements. Et après, comme ça, vous aurez informé l'autorité pénale, enfin, puisque vous aurez fait ce signalement, parce que vous savez, je vous le dis, que vous avez 99% des familles qui ne porteront pas plainte. Et vous aurez signalé, et après, le procureur peut décider d'aller auditionner les élèves qui éventuellement ont commis des faits de harcèlement. Donc voilà, donc ça c'est le harcèlement, c'est un signalement immédiat quand vous avez connaissance d'infraction et en joignant la documentation que vous avez. Maintenant attention, vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas policier, donc c'est pas à vous de trouver des preuves incontestables. Vous, c'est si vous avez auditionné la famille, qui a des rapports d'incident, je ne sais pas, d'un CPE, d'un professeur, etc. Donc vous envoyez des éléments et vous signalez pour qu'il y ait une enquête. Donc ça fait partie ça vous permet d'alerter l'autorité pénale. Et voilà. Alors ça c'est le signalement. Et après, dans les questions qu'il y avait, c'est quand est-ce qu'on fait éventuellement une information préoccupante ? Alors, il faut bien comprendre que l'information préoccupante, ça n'a rien à voir avec le signalement, puisque l'information préoccupante, c'est quand vous lancez une alerte sur éventuellement une situation de danger d'un mineur, quand vous pensez qu'il peut y avoir des problèmes sur son éducation, son développement physique, sa sécurité, sa santé. Alors, moi, je vais vous dire d'un point de vue très pratique, quand vous avez un élève qui est violent dans votre établissement, avec des violences répétées, vous voyez en fonction du type de harcèlement, ça peut être un outil pour vous de faire ce signalement qui va amener à une enquête des services sociaux auprès de la famille. Parce que vous avez certains élèves. Souvent, la plupart, moi je trouve que l'enseignement agricole, souvent j'ai des chefs d'établissement vraiment qui sont très bienveillants, très dans l'action pour mettre des choses en place. Donc quand vous avez fait une commission éducative, que vous voyez que les parents ne viennent pas ou que vous voyez que il y a des difficultés familiales, etc., que vous avez investiguer par rapport à vos outils à vous, l'assistante sociale, l'infirmière, une commission éducative, le signalement face à un élève violent qui réitère, ou ça peut être une piste intéressante, parce que peut-être que l'enfant qui est bourreau, l'enfant qui est violent, enfin l'enfant qui harcèle, il est victime lui-même de carences éducatives. Donc, l'information préoccupante. Donc, on voit bien, j'espère être claire, que le signalement, c'est par rapport à une infraction pénale, vous alertez le procureur qui peut décider après de lancer des poursuites pénales. Mais vous, l'information préoccupante, c'est quand vous pensez qu'il peut y avoir un mineur en danger, avec peut-être une atteinte à sa santé, sa sécurité, sa moralité, notamment par des carences éducatives. Et donc, ça peut être un moyen protecteur pour cet élève qui a des comportements violents ou problématiques, que des services sociaux viennent faire une enquête au sein de la famille. Donc ça, l'information préoccupante est définie comme une information transmise à la cellule départementale pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité, d'où notamment quand il y a des violences importantes et répétées, ou des actes d'incivilité répétés, soit en danger ou risque de l'être. Donc c'est soit en danger ou risque de l'être, ou que les conditions, et ça c'est très important, de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou risquent de l'être. Donc c'est l'article R226-2-2 du Code de l'action sociale et des familles. Et donc, ça, c'est un outil. Moi, je sais que parfois, j'ai des familles, justement, de présumés harceleurs à l'encontre desquels il y a eu des signal, des, excusez-moi, des informations préoccupantes de fait. Et souvent, ça, la famille, là, prend conscience. C'est-à-dire qu'il y a un vrai souci. La famille, du coup, est dans une volonté de trouver des solutions parce qu'ils prennent conscience que la société, par le biais des services sociaux, leur dit là, on va venir voir ce qui se passe chez vous. En plus, quand il y a un signalement, il y a, excusez-moi, une information préoccupante qui est faite, en général, c'est toute la fratrie qui va se retrouver, la plupart du temps, hein, auditionnée par, les services sociaux. Donc ça, c'est aussi un outil. Quand vous pensez que, notamment par rapport à l'éducation ou le développement, peuvent être risque d'être compromis sur un élève qui a eu des comportements problématiques au sein de votre établissement scolaire. Donc ça, pour la CRIP, cette information, elle est envoyée au service départemental de l'aide sociale à l'enfance et ça va dépendre des départements de chacun. En général, vous avez, c'est pareil, un formulaire que vous envoyez selon tel ou tel, ça va dépendre un peu des départements. La plupart du temps, c'est un formulaire que vous envoyez sur une plateforme et vous aurez un accusé de réception. Donc ça, c'est un outil pour vous, l'information préoccupante. Et moi, je sais que au moment de l'annonce de la lutte contre le plan interministériel de lutte contre le harcèlement, ça fait partie des pistes, moi, que j'avais évoquées. De effectivement prendre en compte cet aspect-là, parce que vous pouvez, vous avez une infirmière, vous avez un CPE, vous avez une assistante sociale, enfin quand vous en avez, parce que parfois c'est compliqué, mais du coup, il y a quand certains élèves qui ont des comportements problématique. Parfois, ça peut être un accompagnement pour les aider, pour aider les familles et aussi pour que les familles soient concernées. Parce que moi, parfois, je vois des chefs d'établissement qui me disent, on fait des commissions éducatives, des fois les familles ne viennent pas, etc. Donc voilà, ça peut être un outil pour vous. Donc si je résume, quand vous avez une famille sur l'aspect pénal qui vient vous voir, vous leur expliquez que c'est à eux d'aller porter plainte s'ils estiment qu'il y a une infraction. Vous leur dites, je vous conseille de leur conseiller d'aller voir le médecin parce que dans la définition de l'infraction, il y a l'impact sur la santé et ou sur la scolarité. Donc du coup, quand une famille vient vous voir en vous disant, voilà, mon enfant a peur d'aller à l'école, mon enfant ne dort plus, ne mange plus, n'hésitez pas à dire que peut-être que ce serait bien d'aller voir un médecin parce que si la famille décide d'aller porter plainte, dans les éléments de l'infraction, il y a les faits répétés, les insultes, les violences, etc. Et il y a aussi l'impact sur la santé et la scolarité. Donc par rapport à ça, donc c'est dire à la famille, vous pouvez porter plainte, sinon vous pouvez faire une main courante. Et vous, quand vous avez connaissance d'une infraction, donc d'un délit, c'est le signalement article 40 avec les éléments à votre possession, mais ce n'est pas vous qui engagez l'action pénale, c'est le procureur à qui vous signalez qui pourra le faire. Et vous pouvez faire une information préoccupante qui permettra de diligenter une enquête des services sociaux par le département quand vous avez un élève qui a un comportement problématique par rapport à des faits de violence ou des comportements d'insultes, etc., par rapport à des élèves qui deviennent du harcèlement. Voilà. Donc là, on a vu le cadre juridique, c'est un, agir au niveau disciplinaire. Et deux, agir au niveau pénal, mais c'est finalement c'est pas vous qui agissez au niveau pénal, puisque vous, à part le signalement, c'est pas vous qui décidez et les délais de toute façon sont très longs. Donc moi, par rapport à ma, là c'est notre troisième point, c'est comment agir quand une famille vient vous voir en vous disant, voilà, mon fils vient de me dire qu'il y a un problème de harcèlement ou qu'un de vos personnels a constaté, CPE, surveillant, enseignant, qu'il y avait un problème, qu'un enfant était isolé. En fait, le mot-clé, c'est de faire une enquête contradictoire dans un délai très court. Ça, c'est pareil, si vous devez retenir deux choses, il y a un que vous, c'est l'action disciplinaire parce que le pénal, le temps du pénal ne permet pas de résoudre, d'arrêter le harcèlement dans votre établissement dans un temps court. Et deux, c'est en fait quand quelqu'un vous dit, voilà, je suis harcelé, c'est de mener cette enquête contradictoire. Alors, vraiment, ce qu'il faut savoir, moi, je sais que la France a ratifié la Convention des droits de l'enfant. Et au jour d'aujourd'hui, si vous êtes un majeur dans votre travail, et même vous, en tant que fonctionnaire, si demain vous êtes harcelé par un de vos collègues, vous allez voir la DRH, vous dites je suis harcelé, et la DRH, elle va être obligée de faire cette enquête contradictoire. Ça veut dire qu'elle va vous entendre, elle va entendre votre collègue, et elle va éventuellement entendre les témoins. Et ce qui est incroyable, et je me bats pour ça, c'est qu'un élève mineur qui dit je suis harcelé, en fait, vous, chef d'établissement, vous êtes finalement quelque part, vous êtes un peu dans le vide, parce qu'il y a un beau principe, une belle liberté fondamentale dans le code de l'éducation qui dit on ne doit pas être harcelé, mais en fait, on ne vous dit pas ce qui doit être fait. Et là, avec notamment le député Balanant, en fait, moi, je me bats pour qu'il y ait une procédure contradictoire qui soit dans les textes et qui soit claire. Parce que quelque part, vous, il y a un flou artistique. Et en fait, dans les cas de suicide, dans les cas parce que le harcèlement n'a pas été traité, en fait, c'est des cas où ça a été signalé. Mais en fait, comme il n'y a pas de protocole clair sur quoi faire, il y a des personnels qui agissent, il y a des personnels qui n'agissent pas. Et même ceux qui, avec bonne volonté et bienveillance, veulent agir, parfois, ils ne savent pas comment faire. Donc en fait, la première chose quand on vous signale des faits de harcèlement, ça va être cette fameuse enquête contradictoire. Donc c'est un grand mot, mais c'est très simple. En fait, c'est recueillir la parole de la victime. Alors ça déjà, moi souvent les gens m'appellent et me disent oui, mon enfant il est harcelé. Et je dis mais c'est quoi? Ça veut rien dire être harcelé. Être harcelé, c'est des faits. Moi je dis vous demandez à votre enfant de prendre une feuille et de mettre des faits. Donc les faits, c'est tel jour à la récré, on m'a traité de gros porc, tel jour à la cantine, personne n'a voulu manger avec moi, tel jour on m'a traité de gros con, tel jour, vous voyez, où c'était? Est-ce que c'était en cours de français? Est-ce que qui a pu voir? Qui était autour? Voilà. Donc c'est en fait quand on vous dit je suis harcelé, souvent il y a tellement d'émotions parce que c'est très dur de dire qu'on est harcelé. Qu'en fait, souvent, en fait, donc déjà, c'est de décrypter c'est quoi les faits. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je fais des interventions avec Initia Droit parfois dans des classes, et j'avais fait une intervention sur la violence en milieu scolaire. Parce que comme on parle beaucoup du harcèlement, des fois, on vous dit, les gens disent je suis harcelé. Et des fois, ça va être des incivilités, des fois, ça va être une violence sur un fait, des fois, ça va être une insulte. Mais pas répété. Donc déjà, c'est savoir s'il y a des faits répétés, quels sont les faits, est-ce que vous avez affaire à des violences verbales, est-ce que c'est répété dans le temps, est-ce qu'il y a eu juste une fois, voyez? Donc donc déjà par rapport à la victime, parce que quand les gens sont dans la souffrance, ils vont avoir beaucoup de mal à exprimer parce qu'ils vont mélanger, et ça vous le savez, l'émotionnel au factuel. Donc vous, déjà, c'est difficile, hein, parce que moi, je vois dans mon bureau, des fois, ça met une heure et quart pour savoir quels sont les faits. Donc savoir auprès de la victime quels sont les faits en demandant qui commet et qui est témoin. Ça nous amène à la question des témoins, et après, on verra ce que vous faites par rapport aux auteurs. C'est très important quand on vous alerte sur des faits, parce qu'il y a aussi des gens qui se victimisent et qui vont accuser d'autres gens de harcèlement. Et c'est ces élèves-là qui, en réalité, commettent du harcèlement par diffusion de fausses rumeurs. Moi, par exemple, j'ai eu un cas où c'était en prépa, c'était un élève autiste qui a été accusé par une bande de filles d'avoir sorti son sexe en cours. Et le chef d'établissement paniqué a immédiatement, dans la journée, fait une mesure conservatoire et convoqué un conseil de discipline avec en plus à fuiter dans la presse. Et en fait, quand le chef des, quand il y a eu une enquête après, mais après la convocation, etc., en fait, les élèves qui étaient autour, qui étaient assis à côté du gamin, ont dit, mais c'est complètement faux. Et en fait, c'était cette bande de filles qui, c'était un gamin Asperger qui avait du mal à décrypter les, on va dire, les interactions sociales, qui, en réalité, harcelait ce gamin. Donc, c'est pour ça que c'est, quand on vous dit des faits, c'est demander quels sont les faits et qui peut être témoin. Par exemple, un élève vous dit, moi, on m'a mis une énorme baffe ou là, face à ce cas-là, vous allez demander à côté de qui tu es assis et vous allez demander, vous voyez, aux gens qui étaient assis à côté, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ou vous allez demander aux délégués de classe, par exemple. Donc, vous demandez bien à l'élève qui a pu voir quoi. Évidemment, vous demandez qui a pu voir par rapport à l'équipe éducative, si ça se passe dans la récré, les vestiaires de gym, est-ce que le prof, si c'est dans telle matière, etc. Et par rapport aux témoins, des fois, les élèves ont très peur. Donc déjà, vous pouvez vous appuyer sur les délégués de classe, parce que comme le délégué de classe et le suppléant vont parler au nom des élèves, des fois, c'est plus facile de dire, voilà, moi, j'ai pu observer. Parce que des fois, le délégué se sent plus à l'aise. Parce que c'est vrai que c'est tout le problème que des fois, les témoins n'ont pas envie de se faire traiter de balance. Et c'est vrai qu'aussi, ce qu'on voit, ça, c'est la réalité, c'est que quand il y a harcèlement, souvent, malheureusement, il y a une tête pensante, il y a ses lieutenants, un peu comme dans la mafia. Et après, il y a ceux qui participent en ricanant et en étant, on va dire, témoins, qui n'agissent pas, mais qui enfin, vous voyez, ne dénoncent pas non plus, et qui se disent, oui, mais si on parle, c'est nous qui allons nous retrouver harcelés, parce que moi, je préfère être du côté de ceux qui ricanent que du côté de ceux qui sont harcelés. Et il faut savoir que quand vous recueillez des témoignages, vous pouvez tout à fait anonymiser les témoignages. Alors ça veut dire quoi? Donc, évidemment, dans votre bureau, à l'élève, le témoin, de faire un rapport d'incident, de dire, bah, moi, j'étais dans le vestiaire de sport, j'ai vu on a baissé le jogging et machin, il a filmé, voyez, pour se moquer de lui, ou il a poussé, ou moi, j'ai eu un cas, par exemple, cette semaine, où trois gamins ont tiré par les pieds et les mains à notre gamin pour le mettre sous la douche, et que c'était répété avec des insultes, etc. Donc, il va écrire son nom, etc. Et après, vous prenez, bah, voyez, un beau marqueur comme ça, et dans votre dossier de conseil de discipline, vous anonymiserez, un peu comme dans les dossiers top secret, voilà, où en fait vous cacherez l'identité de la victime, mais vous aurez, vous, un témoignage en bonne et due forme. Où je l'ai déjà fait quand pour des établissements scolaires, je les aide à mettre en place des procédures disciplinaires. Vous pouvez, vous, faire un rapport d'incident en disant, moi, chef d'établissement ou moi, CPE, j'ai auditionné un ou une élève, donc vous ne mettez pas son nom, qui m'indique que, et là, vous mettez ce que l'élève vous a indiqué, et l'élève, elle signe en bas qu'elle a déclaré cela. Mais du coup, c'est vous qui rédigez, et vous faites signer après par l'élève, mais du coup, en mettant un élève. Voilà, donc vous pouvez anonymiser par rapport au témoignage, mais après c'est très important parce que ça, c'est pas forcément. Alors, je trouve que dans le monde de l'enseignement agricole, vous avez une vraie culture, je trouve, du respect du juridique. Notamment, par exemple, vous mettez en place, même pour les lycées privés, des commissions d'appel, ce qui n'existe pas pour les lycées privés qui relèvent de l'éducation nationale. Vous qui avez une vraie culture, je trouve, du respect, je trouve que vous êtes très avant-garde pour ça. C'est aussi le contradictoire, c'est aussi écouter celui qui est accusé. Et moi, je vois un emballement des fois sur quand il y a des accusations de harcèlement à connotation sexuelle. Par exemple, le cas du gamin que je vous décris, où le chef d'établissement paniqué, on va dire, a immédiatement convoqué le conseil de discipline dans la journée même. En fait, il faut prendre le temps de convoquer, bien évidemment, aussi l'auteur, lui demander quels sont les témoins qui seraient pour savoir et faire la part du vrai et du faux. Parce que malheureusement aussi, comme le harcèlement, on en parle beaucoup, vous avez des élèves qui vont signaler des faits de harcèlement. Moi, je l'ai par exemple régulièrement pour des groupes WhatsApp, par exemple, où les élèves, par exemple, j'avais, on va prendre un cas de cette semaine, des élèves qui font des groupes ou Discord où ils jouent à des jeux vidéo et ils s'insultent en disant « toi, fils de pute, ta mère, machin ». Bon, on est d'accord, je valide pas. Hein. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des insultes réciproques dans un contexte. Et à un moment, il y a une dispute entre deux personnes et il y en a une qui va aller voir le chef d'établissement avec des morceaux d'insultes, ta mère, machin, il va apporter des petits bouts. Là, par exemple, je vous conseille de demander les gros bouts, enfin, c'est-à-dire de tout demander. Parce que là, finalement, parfois, là, ça ne va pas être du harcèlement, et ça va être des propos injurieux, mais échangés de part et d'autre, ce qui n'a rien à voir avec un gamin qui va être lynché sur un réseau social, où vous avez, ce que j'ai déjà vu, 30 gamins qui vont lui envoyer des insultes, des vocaux insultants, humiliants, vexatoires. Donc, toujours essayer de voir le contexte. Donc, écoutez aussi ce que le présumé auteur a à vous dire, parce que, notamment quand c'est à connotation sexuelle avec les réseaux sociaux, etc., parfois, les personnels, etc., vont surréagir immédiatement sans avoir fait cette enquête contradictoire. Donc, moi, ce que je conseille, et c'est ce que j'aimerais voir mis en place dans le code de l'éducation, c'est, en fait, pour moi, c'est pareil, ça, retenez-le, entre le moment où la famille vient vous voir et votre action, pour moi, il faut qu'en 8-10 jours, vous ayez bouclé votre enquête contradictoire. C'est-à-dire auditionner la victime, les témoins potentiels, surtout évidemment les membres de l'équipe éducative ou le personnel qui a pu voir, et l'auteur. Et primordial, il faut absolument tenir informé au bout de ces 8-10 jours la famille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les cas où on me saisit, dans les cas où on appelle le numéro national de lutte contre le harcèlement, vous avez encore trop de chefs d'établissement, même s'ils ont fait le job, ils n'informent pas la famille. Donc en fait, vous avez une famille qui ne sait pas ce qui est fait. Donc en fait, si vous demain, il faut toujours se mettre, moi je trouve que ça permet d'être pratique. En fait, quand quelqu'un vous signale des faits de harcèlement, vous vous dites, bah alors si moi je signale à mon travail en tant que fonctionnaire, puisqu'on me doit une protection, on doit assurer ma sécurité, qu'est-ce que je voudrais? Si vous allez voir la DRH pour dire, voilà, je suis harcelée par mon collègue ou par mon supérieur, vous voudriez que la DRH vous dise, bah voilà, concrètement, voilà ce que l'enquête a donné et voilà ce qu'on va faire. Et ça, c'est primordial parce que sinon, ça crée un sentiment d'injustice chez les familles. Donc, c'est, vous faites votre enquête contradictoire et au bout de 8-10 jours, maximum pour moi, vous convoquez la famille et vous dites voilà. Mais attention, vous pouvez dire, bah voilà, moi j'ai enquêté, j'ai des rapports d'incidents, etc. Et finalement, enfin, il y a des faits de harcèlement ou il y a des faits de violence ou, par exemple, dans des insultes réciproques, c'est des insultes réciproques où il va y avoir des sanctions, mais éventuellement, celui qui a dénoncé pourra peut-être être aussi sanctionné si en réalité, lui aussi, il insulte autant que les autres dans des échanges qui sont Discord 3 et enfin, des échanges, on va dire, insultants répétés entre élèves. Et que ce n'est pas du harcèlement, ou il y a du harcèlement, ou il n'y a pas de harcèlement. Et là, vous expliquez à la famille. Et ce que je vous conseille aussi, si il y a du harcèlement, à ce moment-là, c'est d'expliquer à la famille ce que vous allez faire. Donc, ce que vous allez faire, puisque c'est votre pouvoir, c'est vous faire une procédure disciplinaire. Alors, ça, c'est l'aspect, on va dire, répressif. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous avez l'obligation de faire une procédure disciplinaire. Vous, en tant que chef d'établissement, vous le faites soit seul et c'est vous qui prononcez la sanction, soit quand il y a un harcèlement, si vous envisagez une exclusion définitive, à ce moment-là, il faut convoquer le conseil de discipline, puisque seul le conseil de discipline peut à ce moment-là prononcer l'exclusion définitive. Il faut savoir que la victime, parce que moi je fais beaucoup de conseils de discipline, vous n'avez pas l'obligation de la convoquer au conseil de discipline, mais vous pouvez le faire, puisque la loi vous donne le droit de convoquer toute personne utile à la manifestation de la vérité. Et moi j'ai des conseils de discipline où la victime vient, où j'ai des conseils de discipline où les parents de la victime viennent si c'est trop dur pour la victime, parce que ça peut être une manière de restaurer aussi la parole de la victime, qu'elle s'exprime. Donc après ça, c'est Ça va dépendre, enfin ça en discuter avec la famille, mais c'est possible que les parents viennent de la victime pour expliquer bah, l'impact que ça a eu, etc. Puisque vous, vous prenez des sanctions qui sont éducatives. Donc c'est important aussi qu'à ce conseil de discipline, on entende l'impact sur la santé et la scolarité. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant que vous ayez suggéré à la famille quand vous voyez qu'il y a des faits de harcèlement, parce que les familles n'y pensent pas forcément. Si l'enfant est en grande souffrance, qu'il y ait une consultation médicale qui acte de cette souffrance, de cette phobie scolaire, etc. Donc, le conseil de discipline, il faut savoir que, alors, sur le papier, c'est le harceleur qui part. Parce que vous pouvez l'exclure. Mais la réalité pratique, malheureusement, c'est que parfois, c'est la victime qui préfère partir quand le harcèlement est très installé. Et c'est pour ça que vous avez un rôle qui est crucial d'agir dans un délai très court pour le disciplinaire, dans un délai de 8-10 jours, on va dire, avec après la mise en place pour votre enquête et après lancer votre procédure disciplinaire. Parce que plus le harcèlement va avoir duré, plus il va y avoir un nombre d'élèves impliqués parce qu'il y a les chefs de tête, les chefs de file du harcèlement, mais il y a tous les témoins silencieux, tous ceux qui ricanent derrière l'élève, tous ceux qui ne veulent pas lui adresser la parole. Et donc, parfois, l'élève harcelé préfère quitter l'établissement. Dans ces cas-là, vous devez expliquer, enfin, je vous conseille d'expliquer à la famille qu'en fait, ils sont en droit de demander à changer d'établissement. Compte tenu de l'impact sur la santé et la scolarité de leur enfant. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un certificat médical pour montrer cet impact. Donc ça, dans votre rôle de conseil pour accompagner la famille et l'élève, c'est de leur expliquer. Moi, souvent, ce que je dis à la famille, c'est d'en discuter avec un psychologue ou le médecin généraliste, voir ce qui sera le plus le moins le mieux pour la reconstruction de la victime. Et après, si la victime reste, ça c'est très important. Alors je sais que comme vous êtes très bienveillant et motivé, vous le faites souvent, mais bon, je vois certains établissements qui ne le font pas. C'est une chose de sanctionner disciplinairement, mais il y a un rôle de réhabilitation de la victime parce que en fait, comme il perdure le sentiment que aller parler, dénoncer, c'est une balance, c'est qu'il y ait une communication, alors que ce soit fait par le CPE, le chef d'établissement, l'infirmière scolaire, dans la classe, si la victime décide de rester, que la victime est extrêmement courageuse, que c'est vraiment être très, très courageux. D'avoir parlé des faits de harcèlement, de même que de parler de faits de raquettes, ou voilà, et que vraiment c'est un courage d'en parler, et que voilà, quand on est témoin, c'est aussi du courage d'aller parler, et que pour restaurer la victime, non pas comme une balance qui a fait virer le caïd qui harcelait. Donc ça, si l'élève reste, c'est vraiment un travail de réhabilitation au sein de l'établissement scolaire. Et après, ça, c'est important aussi que vous ayez un suivi du harceleur, on va dire, et de la victime. Parce que moi, j'ai déjà vu, le problème, c'est que comme j'ai quasiment pas de cas, très franchement, hein, de harcèlement dans un établissement qui ne se traduit pas par du cyberharcèlement. Donc le souci qu'on a, que la victime change d'établissement ou que le harceleur change d'établissement, les réseaux sociaux, ils continuent à exister. Donc alors, soit vous gardez, la victime reste chez vous et vous avez par exemple exclu le harceleur. Dans ces cas-là, c'est bien aussi de dire à la victime que si jamais sur les réseaux sociaux, il y a enfin lui dire, voilà. Surtout si jamais il se passe quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, que tu continues à être harcelé, tu nous le dis. Parce que justement, avec la loi que vous avez, l'article sur les poursuites disciplinaires, le chef d'établissement de là où le harceleur a été affecté pourra faire une procédure disciplinaire, puisqu'on peut faire une procédure disciplinaire contre quelqu'un qui fait du cyberharcèlement à l'encontre d'un élève qui n'est pas dans l'établissement. Première chose. Deuxième chose, voilà, et oui, et la victime, donc qu'elle sache que si jamais elle est harcelée, Et si vous êtes un chef d'établissement et qu'on affecte dans votre établissement une victime de harcèlement qui a souhaité changer d'établissement, c'est aussi lui tenir ce discours, lui dire voilà, là, bah, on t'accueille dans ce nouvel établissement, on va te protéger, mais lui dire si jamais dans ton nouvel établissement il y avait des choses sur les réseaux sociaux, tu nous en parles. Voilà, vous nous en parlez, enfin, pardon. Du coup, ça permet, par rapport à la victime, de la protéger contre le cyberharcèlement qui peut perdurer malgré une procédure disciplinaire. Voilà. Et c'est vrai que le harceleur aussi, c'est important qu'il soit exclu. Alors que ce soit un harceleur qui va être affecté dans votre établissement ou un harceleur à qui vous appliquez une sanction disciplinaire qui n'est pas une exclusion définitive, c'est effectivement avoir une vraie conversation avec lui pour lui expliquer la gravité, lui expliquer que c'est une infraction pénale et que s'il recommence, il y a un risque, qu'il peut y avoir une enquête au sein de sa famille, parce que le fait de se comporter comme ça est problématique. Et sur les parents des harceleurs, vous pouvez suggérer, si vous voyez que c'est vraiment… Alors après, ça dépend du dialogue avec la famille. Moi, je sais que quand les gens viennent me voir avec un enfant qui est harcelé, souvent, je dis que ça peut être bien d'aller voir un psychologue pour qu'il y ait un travail qui soit fait. Alors, sachant qu'évidemment, c'est une suggestion, parce que les études, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on voit que des enfants qui ont été harcelés, souvent, parfois, enfin parfois plutôt, vont devenir harceleurs. Et un harceleur qui n'a pas tiré les conséquences de son comportement, en fait, va le reproduire après dans sa vie professionnelle. Et donc, les harceleurs, déjà, les harcelés d'aujourd'hui peuvent être les harceleurs de demain. Et les harceleurs dans un établissement scolaire, c'est tout le drame de cette chaîne de malheurs, vont, en l'absence de sanctions et le fait de s'amender, notamment avec une sanction éducative, va amener parfois ces gens à continuer ce type de pratique après dans les entreprises. Donc c'est vrai qu'on a parfois des comportements de harcèlement et c'est pour ça que vous avez un rôle crucial à jouer parce que ce que vous mettez en place aujourd'hui dans vos établissements, vous savez que ça va impacter des jeunes qui, dans les entreprises, on l'espère grâce à votre investissement de lutte contre le harcèlement, vont cesser ce type de pratique au sein de l'entreprise quand ils seront plus tard. Voilà. Donc, en résumé de mon intervention, votre rôle, il est crucial pour faire arrêter dans un délai très court, on va dire entre 8 et 10 jours, faire une enquête contradictoire quand vous avez vent de faits de harcèlement. Vous auditionnez la victime, les témoins, les auteurs, et là, vous décidez ce que vous faites et vous informez la famille. Voilà, ça c'est vraiment le plus important, c'est d'avoir une réaction qui est rapide. Voilà, s'il y a une chose à retenir, et c'est le fait de recevoir, d'informer la famille et aussi de faire ce travail sur le harceleur en lui expliquant à quel point c'est grave, à quel point il y a des implications, avec une sanction éducative, mais bon, la sanction éducative peut aller jusqu'à l'exclusion définitive, mais que le conseil de discipline soit effectivement ait vraiment valeur éducative. Et moi, je trouve, alors ça fait partie des préconisations qu'on aimerait bien faire rentrer dans la loi, que la victime soit obligatoirement convoquée si elle souhaite venir. Mais vous pouvez le faire puisque vous pouvez demander, parce que le fait à un conseil de discipline que la victime ou les parents de la victime disent, bah voilà, notre enfant a peur d'aller à l'école, notre enfant ne mange plus, a perdu 10 kilos, notre enfant fait des crises d'angoisse, c'est aussi prendre conscience à quel point c'est très, très, très impactant. Et c'est vrai que, bon, enfin, c'est le problème des réseaux sociaux. Moi, je sais que des fois, quand je vais dans les écoles pour expliquer le harcèlement, c'est toujours la version du harceleur, c'est toujours pour rire. Donc, que ce soit des jeux violents dans la cour de récré, que ce soit sur les réseaux sociaux, filmer quelqu'un qui tombe ou filmer quelqu'un à qui on va baisser son pantalon pour l'humilier, c'est toujours pour rire. Donc, c'est vraiment… C'est pour ça qu'il y a une action évidemment de prévention que vous faites en parallèle dans vos établissements, qu'en fait vraiment c'est un impact très fort voilà, et c'est vrai d'essayer d'arrêter cette chaîne de violence, parce que après, sinon, elle se reproduit après au sein des entreprises. Donc, votre rôle majeur, il est sur une action rapide et sur cette enquête contradictoire avec une information de la famille, ce qui vous permettra, vous, d'avoir toutes les cartes en main pour vous savoir ce qui s'est réellement passé, et pas agir non plus dans le feu de l'action. Face à des faits qu'on vous dépeint alors que vous n'avez aucun élément, aucun rapport d'incident et encore aucun témoignage. Donc, toujours prendre le temps de faire la part des choses, mais faire la part des choses dans un temps relativement rapide. Voilà.
Merci.
Après, je pense que le mieux, c'est que vous puissiez me poser des
Oui,
questions
voilà.
pratiques. Voilà.
Mais écoutez, vraiment un énorme merci, Maître Pio, pour tous ces éléments majeurs, pour à la fois rappeler le cadre, mais aussi donner des outils à destination des collègues en établissement, très important. Et moi, ce que je retiens, hein, c'est la rapidité à avoir pour la prise en charge, le traitement et la question du contradictoire qui n'est pas toujours mise en place. Donc pour moi, c'est vraiment majeur. Moi, ce que je vous propose, voilà, c'est donner maintenant la parole donc à Marie-Pierre Zorilla et à François Ruchot, qui au fur et à mesure ont pris, et j'ai vu, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de témoignages. Malheureusement, je ne pense pas que nous pourrons répondre puisque nous finirons à midi. Pour autant, sachez que si toutes les questions qui n'auront pas apporté de réponse, parce qu'on n'aura pas eu le temps, on fera en sorte d'y répondre pour que vous ne soyez pas frustrés les uns ou les autres par rapport aux questions que vous avez pu poser sur cette conférence. Je donne la parole maintenant à Marie-Pierre Zorilla et puis à François Ruchot pour les questions-réponses. Et donc, nous avons une demi-heure pour ce temps.
Oui,
Bonjour.
ah, pardon.
Juste avant de démarrer, on a essayé de regrouper les questions par thème pour que ça soit plus simple. Et on vous a mis dans le chat plein de liens sur des notes de service, sur la plateforme violence de lutte contre les violences et les discriminations dans l'enseignement agricole. N'hésitez pas à y aller, il y a plein d'informations aussi qui sont dessus.
On
Voilà.
va faire de manière alternante.
Tout à fait.
Donc voilà. On va essayer de répondre. On a reclassé un petit peu chronologiquement vos questions, sachant qu'entre le moment où vous avez pu les poser et la fin de l'intervention de Madame Piau, vous avez peut-être eu des réponses. On va commencer par juste vous demander, Madame Piau, si vous voulez bien une définition très courte de la notion de harcèlement dans le droit, si vous pouvez. C'était une des questions qu'on voulait vous relayer en premier, ainsi que revenir un petit peu sur la notion de phobie scolaire avec la difficulté qu'on peut avoir en établissement à faire la différence entre ce motif qui est avancé et des situations qui sont autres et voilà, et qui parfois, voilà, il y a de la confusion et comment faire pour faire le distinguo si vous avez des pistes à nous proposer.
Alors, comme définition du harcèlement, c'est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Donc, cette violence se retrouve au sein de l'école et elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut pas se défendre parce qu'il y a une notion d'emprise. Lorsqu'un enfant ou un adolescent est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle de harcèlement. Et avec l'utilisation des nouvelles technologies de communication, le harcèlement entre élèves existe également en dehors de l'enceinte de l'établissement scolaire et on parle alors de cyberharcèlement. Après, vous avez la définition qui est dans le code de l'éducation. C'est l'article que je vous ai lu tout à l'heure, L111-6. Donc c'est L111-6 du code de l'éducation. Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire. Et c'est ça qui est important, et ayant pour objet ou effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. En fait, dans la définition même du harcèlement, il n'y a pas de définition des actes. On est d'accord, ça peut être de la violence morale, physique. Mais c'est pour ça que je vous conseille de dire aux familles, bah, allez voir, et ça va répondre à votre deuxième question sur la phobie scolaire, allez voir un médecin, parce que, enfin, que votre enfant aille voir un médecin, parce que dans la définition même du harcèlement, en fait, il faut que ça impacte la santé et ou la scolarité. Et dans l'impact sur la scolarité, on a la baisse des notes, souvent, et on a une peur d'aller à l'école. Et du coup, le médecin va constater éventuellement une phobie scolaire qui est une anxiété d'aller à l'école qui se traduit par des symptômes physiques. Moi, j'ai des enfants qui, la famille m'explique que, enfin, le médecin constate que l'enfant vomit quand il va à l'école, a des maux de ventre terribles. Vous voyez, c'est de la phobie scolaire. Des fois, ça amène des syndromes physiques. Et c'est pour ça que vous, vu de l'extérieur, notamment si une famille vous dit, bah, notre enfant, il a peur d'aller à l'école, vous incitez la famille à ce qu'il y ait un médecin, un professionnel de santé qui reçoive l'enfant, parce que le professionnel de santé, par rapport aux symptômes physiques, pourra parler notamment de phobie scolaire, parce que la phobie scolaire, je vous dis, c'est des gamins, ils vomissent à l'idée d'aller à l'école, ils en sont malades, c'est-à-dire que vraiment, c'est ou ça peut être un syndrome anxieux dépressif qui est lié à la conséquence des actes répétés qui implique ce syndrome dépressif ou ce syndrome anxieux. Donc, en fait, c'est pas que des faits. Il faut que dans la définition même du harcèlement, en fait, il y ait un impact sur la santé et ou la scolarité. Et donc, quand un élève, il y a un absentéisme important, de toute façon, on va dire, c'est pas normal si la famille n'a pas de certificat médical. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, peut-être parler par le biais de l'infirmière. Je trouve que les infirmières scolaires sont souvent des gens très, très compétents et très dévoués. Et en parlant avec la famille, vous voyez, peuvent aussi avoir des informations intéressantes en parlant avec l'enfant, de voir si effectivement il est terrorisé à l'idée d'aller à l'école. C'est un peu comme vous, si demain vous êtes harcelé par votre collègue de bureau, là, je ne sais pas si vous êtes un open space, et que vous avez peur d'aller à votre travail, vous allez aller voir votre médecin qui va vous faire un arrêt. Parce que, en fait, le médecin, vous allez lui dire, voilà, moi, je suis terrifiée, je n'endors plus la nuit, j'ai perdu 10 kilos, donc je ne peux plus y aller. Ben, c'est ça, la phobie scolaire, c'est la même chose. Et donc, c'est mieux qu'il y ait un arrêt, effectivement.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, une question en termes de responsabilité. Quand les familles ne sont pas en mesure de fournir des éléments de harcèlement, mais qu'ils utilisent ce terme malgré tout, jusqu'où notre responsabilité et obligation de signalement auprès des instances?
Alors, on en revient à ce que je vous ai dit. Moi, c'est pareil, les gens me disent « oui, mon enfant, il est harcelé ». Je leur dis « mais ça veut dire… enfin, c'est quoi les faits ?» Donc, en fait, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, vous demandez à la famille des faits. Donc, est-ce que c'est « j'ai été traité de gros con en cours de français » quand, par exemple, j'ai eu un cas hier, à chaque fois que je lève la main, les élèves baissent ma main et me disent « toi, t'es trop con » et ça se passe à chaque fois en cours de français. Vous voyez, c'est en fait… Donc, vous, pour savoir s'il y a du harcèlement, en fait, c'est simple. Vous prenez une feuille avec l'élève, vous y passez 2 heures s'il le faut, mais vous listez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qui te dit quoi? Qui fait quoi? Qui est à côté? Par exemple, s'il dit qu'en cours, il y a à chaque fois qu'il lève la main, on le traite de gros con et on le force à baisser la main. Qui est à côté de lui en classe? Voilà, donc pour savoir… parce qu'en fait, quand on vous dit, quand une famille arrive ou un élève arrive en pleurs ou une famille arrive avec beaucoup d'émotions et vous dit « oui, il y a du harcèlement », vous, votre rôle, c'est de dire « alors, on va voir ensemble quels sont les faits que subit votre enfant ». Et à partir des faits, vous allez pouvoir savoir, en fait, en résumé, pour savoir s'il y a du harcèlement, il faut que ce soit répété. Si, par exemple, demain, il y a un élève qui met une claque à l'autre, ça va être des faits de violence. Si c'est tous les jours que l'élève se prend une petite claque dans le dos, ça devient du harcèlement. Mais du coup, vous ne pouvez pas savoir. Donc, en fait, votre responsabilité, alors ça, c'est l'objet d'un autre bloc, mais votre responsabilité, elle est de faire cette enquête contradictoire pour essayer de comprendre quels sont les faits. Et après, vous, en fonction des faits, vous voyez si, par exemple, si c'est deux élèves qui se sont traités de gros cons entre eux, et bah, ça sera des incivilités et peut-être ils vont avoir une punition pour faire une rédaction sur le respect de l'autre. Si c'est 30 personnes dans un groupe WhatsApp qui traitent une gamine de pute, bah, là, c'est du harcèlement. Si c'est… voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Vous, en fait, vous ne pouvez pas savoir à quoi vous avez affaire si vous ne faites pas cette enquête contradictoire et que vous ne demandez pas à l'élève c'est quoi les faits. Les faits, c'est en cours de français, il s'est passé ça. À l'intercours, il s'est passé ça. Il y avait tel surveillant. Il y avait telle personne à côté de moi qui a vu. À la cantine, il s'est passé… Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est toujours revenir dans le factuel. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, malheureusement, comme le harcèlement devient un sujet dont tout le monde parle, moi, de plus en plus souvent, on me dit « oui, je suis harcelée », mais en fait, ça ne veut rien dire être harcelée. En fait, ce qui veut dire quelque chose, c'est quels sont les faits, et après, vous voyez s'il y a matière à sanction ou pas. Puisque ça, vous, en tant que chef d'établissement, vous savez quoi faire s'il y a un élève qui a donné un coup de pied à l'autre, et vous savez quoi faire si c'est un élève qui se fait traiter de gros tous les jours et qui mange tout seul et à qui personne ne parle dans la cour de récré. Vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes faits.
Merci. On avait une question alors autour de la façon de traiter les victimes et les harceleurs, mais vous avez répondu de manière assez étayée. Donc l'autre partie de la question, c'était un peu revenir sur le fait de devoir entamer une procédure disciplinaire à l'égard d'un harceleur scolarisé dans un autre établissement. Non, parce que enfin il y a cette question. Est-ce que lorsque notre propre élève être harcelé par un harceleur scolarisé dans un autre établissement. Est-ce que c'était ça dont vous aviez parlé? Et puis, donc, le pendant, c'est quand un de nos élèves harcèle un élève dans un autre établissement. Comment ça se passe concrètement?
Alors, le texte de loi, donc c'est l'article R811-83-9, ça dit, lorsque l'élève, enfin, vous devez faire une procédure disciplinaire, lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. Ça veut dire que si vous, chef d'établissement, vous avez vent qu'un élève, on va dire qu'il s'appelle Julien, par exemple, dans votre établissement, parce qu'on vous a amené des éléments de preuve, harcèle quelqu'un. Alors, si c'est du cyberharcèlement, on est d'accord que vous allez avoir des captures écran. Du coup, vous avez le droit de… Ou si vous avez eu vent que votre élève… Enfin, votre élève, excusez-moi. L'élève scolarisé dans votre établissement a commis des actes… excusez-moi. De violence à l'encontre d'un autre élève. Alors, encore faut-il que vous en soyez avisé. Donc, ça veut dire que nécessairement, une famille ou un chef d'établissement a porté ça à votre connaissance. Parce qu'on est d'accord, vous n'avez pas un rôle d'enquête pour savoir ce qui se passe dans un autre établissement. Donc, c'est uniquement si par le biais de vos personnels éducatifs ou par le biais de propos que vous rapportent des élèves de votre établissement, vous avez connaissance que un élève qui est scolarisé chez vous va harceler quelqu'un qui est ailleurs. Et là, dans ces cas-là, vous allez avoir le droit de faire ce conseil de discipline, même si l'élève harcelé, il n'est pas dans votre établissement. Maintenant, je ne vous cache pas que je n'ai jamais eu le cas. Voilà. Donc, pense que ça touche plus. Moi, j'ai déjà vu des cas, notamment de cyberharcèlement, où les gamins vont dire, voilà, on va les casser la gueule à truc, ils se retrouvent en bande à la sortie d'un établissement. Donc, ça vous permet, et des fois, il y a des bandes d'élèves qui vont se battre. Moi, ça, je l'ai déjà vu devant un établissement scolaire avec du cyberharcèlement, avec des demandes de, vous voyez, d'aller tabasser un élève. Donc là, du coup, si vous avez vent de choses comme ça et qu'un de vos élèves est impliqué, vous serez en droit éventuellement de demander son exclusion. Mais c'est vrai qu'on est d'accord que encore faut-il que vous, chef d'établissement, dans votre établissement, en gros, un élève de l'établissement ou une famille vous en est alerté, parce que sinon, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Si l'élève harcelé est harcelé ailleurs.
Et juste, je voulais poursuivre parce que c'était un peu dans le même pool de questions. On a plusieurs témoignages, en tout cas remarques de collègues qui mettent en place, alors on a bien entendu la notion de délai de traiter une situation de harcèlement rapidement, de manière disciplinaire, mais il y a des méthodes comme celle de la préoccupation partagée ou les dispositifs sentinelles et référents ou en termes d'action éducative, on essaye des choses, ça prend un petit peu de temps, ça contribue aussi à clarifier la situation. Et donc les questions des collègues, c'est un peu autour de voilà cette notion de est-ce qu'on peut prendre bien sûr néanmoins le temps d'essayer de traiter par ce biais-là. Ou en, voilà, des éclaircissements autour de ce que vous avez amené là-dessus.
Oui, ça c'est important, effectivement, comme question. En fait, pour moi, ce que vous devez vraiment faire, enfin, je ne veux pas vous donner des ordres, hein, mais c'est enquêter dans ce délai de 8-10 jours, d'accord ? C'est faire cette enquête et recevoir la famille. Après, vous avez le droit de dire à la famille, voilà, il y a des faits de harcèlement, mais comme c'est un harcèlement qui s'est passé ça et ça, on va faire une médiation avec le référent harcèlement de l'établissement, etc. Et vous nous tenez, s'il se passe quoi que ce soit, s'il y a un nouvel élément, vous nous tenez informés. On propose, par exemple, je ne sais pas comment le protocole, mais vous pouvez proposer à l'élève, par exemple, que le CPE soit son référent, l'élève harcelé, et que toutes les semaines, il fait un briefing avec le CPE pour voir si le harcèlement s'est arrêté. Mais en fait, vous devez, pour moi, enquêter dans ce délai très court pour savoir ce qui se passe dans votre établissement. Ça, c'est pas, entre guillemets, négociable. Vous n'avez pas d'obligation légale, hein. Mais moi, je vous dis ce qui fonctionne pour que ça soit bien compris par la famille et que le harcèlement n'augmente pas en puissance dans votre établissement. Après, vous n'êtes pas obligé d'engager la procédure disciplinaire immédiatement. C'est-à-dire que si vous arrivez à résoudre le harcèlement par le référent, etc., vous pourrez peut-être juste après mettre un avertissement. Mais vous aurez convoqué la famille, vous aurez dit, voilà, il y a un souci effectivement avec tel et tel élève, on a identifié le problème. Toi, élève courageux qui a été harcelé, qui nous l'a expliqué, voilà, je te propose de faire le point toutes les semaines, ou même la porte du CPE est ouverte quand tu veux, s'il se passe quoi que ce soit. Donc, on va faire cette médiation. Tu nous diras comment tu te sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je ne vous dis pas qu'en fait, il faut virer au bout de 10 jours le harceleur. Je vous dis qu'il faut savoir ce qui se passe dans votre établissement et protéger la victime pour qu'au bout de 8-10 jours, vous puissiez dire à la famille et surtout à la victime, voilà, ça s'arrête. On prend des mesures, ça s'arrête. Donc, voilà les mesures prises. Si vous ne faites pas de procédure disciplinaire et que vous faites appel à vos référents harcèlement dans l'établissement, bien expliquer à la victime à qui peut s'adresser s'il se passe quoi que ce soit et rassurer la victime que, en fait, en gros, on ne sait pas ce qui se passe et voilà. Souvent, il y a un manque de communication quand la famille, et du coup, ça crée un sentiment d'injustice, de peur, d'anxiété majorée, etc. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas ce que vous allez faire, enfin, ce que met en place le chef d'établissement.
Merci.
Il faut vraiment considérer la famille et la victime. Si vous avez bien caractérisé dans votre enquête des faits de violence ou d'incivilité, etc., comme étant partie prenante en leur disant « voilà ce qui se passe ». Il faut vraiment vous dire, c'est comme si vous êtes harcelé à votre travail, vous voulez que la DRH vous dise « bah voilà, effectivement, ton collègue a pris ton… » genre, je dis n'importe quoi, « renversé le café sur ton bureau, mais il s'est excusé, il était énervé ce jour-là et il a promis qu'il ne recommencerait pas, mais s'il se passe quoi que ce soit, tu peux venir dans mon bureau. » Et vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas pareil que si voilà, votre collègue il a renversé volontairement le café sur votre bureau et que vous ne savez pas ce qui va se passer, quoi.
Merci. Quelques questions autour du signalement. Donc, j'en ai regroupé 5 qui sont a priori dans le même bloc. Si la famille a déjà porté plainte, l'établissement doit-il faire un signalement ? Si pas de preuve des faits, l'établissement doit-il faire un signalement ?
J'ai pas entendu la deuxième partie, excusez-moi.
Si pas de preuve des faits, l'établissement doit-il faire un signalement ? Ensuite, il y a une troisième question qui serait que faire quand l'élève ne veut pas d'une IP alors qu'a priori il est en danger ? Est-ce qu'il faut faire le signalement puis l'enquête contradictoire ou d'abord mener l'enquête contradictoire et en fonction faire le signalement ? Et en cas de signalement, faut-il informer la famille ?
Alors, vous me répéterez si j'en ai oublié certains.
Il n'y a
Alors,
pas de souci.
déjà, quoi qu'il arrive, alors est-ce que je rabâche, hein, mais comme ça, au moins, vous serez sûr d'avoir bien tous intégré ça. L'enquête, elle est tout le temps. Et en fait, vous ne pouvez pas faire de signalement sans avoir fait votre enquête, puisque vous ne savez pas ce qu'il y a. En fait, il suffit pas. Moi, si par exemple, aujourd'hui, là, je dis dans ma conférence, voilà, Monsieur Ruchot m'a volé mon sac à main. Ok, je le dis, mais c'est pas pour ça que Monsieur Ruchot m'a volé mon sac à main. La question, c'est est-ce que vous êtes 15 à être en face, est-ce que vous avez vu Monsieur Ruchot me voler mon sac à main? Ben, c'est pareil, l'effet de violence ou de harcèlement. Donc en fait, vous faites rien, que ce soit signalement ou autre, sans avoir mené cette enquête au bout de 8 jours. En gros, vous allez savoir ce qui se passe. Vous aurez entendu la victime, vous aurez entendu les témoins et vous aurez entendu l'auteur. Donc là, vous allez, et attention, on ne vous demande pas d'envoyer la preuve de l'infraction, mais si vous avez, l'enquête, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si le CPE, il a vu Tartempion qui écrase le pied dans la cour de récré à tel élève, que le prof de français, il a vu le même élève qui a traité de con à son cours de français, l'élève. Voyez ce que je veux dire? Vous aurez, en fait, vous faites des rapports d'incidents pendant l'enquête. Vous faites des rapports d'incidents. Donc, en fait, le signalement, vous allez le faire à la suite des éléments que vous allez recueillir. Donc, évidemment, vous ne faites pas de signalement sans savoir ce qui se passe, parce que sans avoir fait cette enquête contradictoire. Après, l'IP, ce n'est pas du tout à l'élève de décider. Enfin, je veux dire, c'est vous, chef d'établissement et personnel éducatif, qui décidez en votre âme et conscience si vous pensez qu'il y a un risque sur la santé, l'éducation, la moralité de l'enfant. Et je suppose que, enfin, et en gros, si vous avez un élève, entre guillemets, à problème, qui commet des actes de violence, des incivilités, que vous n'arrivez pas à avoir un contact, on va dire, une réciprocité éducative, enfin, comment dire, un échange éducatif avec la famille, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas du tout à l'élève. La question, c'était si l'élève n'est pas d'accord, mais l'élève, il sera jamais d'accord puisque vous lui demandez pas son avis, ni à la famille. Donc l'IP, l'information préoccupante, c'est vous, en votre âme et conscience, qui signalez que peut-être que l'enfant, il y a une mise en danger par des carences éducatives. Donc ça concerne personne d'autre que vous et votre décision. Et ce n'est pas à vous d'en parler à la famille, ça sera au département. Donc vous remplissez le formulaire CRIP, qui est un formulaire. Qui est un formulaire que vous avez dans votre département, qui doit changer selon les départements. Mais après, ça sera le département qui convoquera la famille et qui dira, voilà, il y a une information préoccupante, etc. Donc l'information, ce n'est pas vous qui l'avez faite. C'était quoi les autres questions?
Si la famille a déjà porté plainte, l'établissement doit-il faire un signalement?
Alors moi, je vais vous dire, je vous conseille de le faire, si ce n'est aussi à titre de responsabilité, parce qu'en fait, déjà, il y a malheureusement encore des commissariats, comme un peu les femmes battues, je fais un parallèle, on est d'accord que normalement, il faut qu'il y ait une enquête, et vous avez des commissariats qui ne veulent pas prendre les plaintes, qui veulent, alors que c'est la famille a le droit de porter plainte pour harcèlement, puisque c'est une infraction. Donc moi, je trouve qu'à partir du moment où, après votre enquête, vous avez des éléments, ça vous permet de vous signaler, et après le procureur, il fait ce qu'il veut, puisqu'il aura la plainte de la famille. Et vous avez aussi des familles qui s'expriment très mal. Vous avez des familles qui n'arrivent pas à s'exprimer entre l'émotion et le. Et comme vous aurez mis des éléments factuels, vos rapports d'incident, par exemple, du coup, ça aidera la famille à ce que la plainte, par exemple, soit prise en considération. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. J'avais un établissement d'enseignement supérieur où une jeune fille a été agressée par un élève. Donc elle a porté plainte et en parallèle, la chef d'établissement a fait un signalement article 40. Voilà. Ça, c'est votre obligation en tant que fonctionnaire à partir du moment où vous avez connaissance de faits qui peuvent être un délit. Attention, c'est qui peuvent être. Et on est d'accord que le signalement, vous ne le faites pas sans avoir fait votre enquête avec un minimum de témoignages, etc. Donc, si vous pensez objectivement qu'il peut y avoir un harcèlement, par contre, on est d'accord, c'est pas à vous de prouver de façon incontestable. Ça veut dire qu'après, c'est la police qui convoque, c'est la police qui auditionne, etc. Mais vous aurez en votre âme, enfin, comment dire, en votre âme et conscience, vous aurez des éléments. Mais vous voyez, c'est impossible d'avoir aucun élément. C'est-à-dire que de toute façon, Une école, il y a au moins 300 ou 400 élèves. Donc, en fait, à part si on se fait taper dans les toilettes, et encore, il y aura dans ces cas-là quelqu'un qui aura vu l'élève qui sort en pleurs des toilettes. Mais voyez ce que je veux dire? C'est impossible qu'il n'y ait jamais personne qui ait vu. Et des faits de harcèlement, comme c'est répété, il y a forcément quelqu'un qui a vu quelque chose. Ah, je ne vous entends pas.
Pardon,
Alors,
pardon, j'avais coupé mon
oui,
micro.
vas-y, Marie-Pierre.
Des questions autour justement du parallèle entre la notion de plainte et de ce qui se passe dans les établissements. Donc, un premier témoignage qui évoque une situation où il y a eu un conseil de discipline, un jeune a été exclu, les jeunes filles ont porté plainte parce que ce jeune avait commis des actes relevant, bien entendu, aussi d'une plainte, etc. Et les collègues qui disent, ça fait plus de 6 mois, on n'a pas de nouvelles et c'est décourageant. Et voilà, bon, le jeune, visiblement, n'est plus dans l'établissement, mais c'est un peu, voilà, comment les victimes, voilà, vivent ces situations, etc. Et un autre témoignage qui évoque une situation où, en fait, il y a une agression sexuelle, donc il y a eu un signalement, les familles ont déposé plainte, il y a eu 2 jeunes filles qui ont été agressées, et victimes et agresseurs sont toujours dans l'établissement. Et voilà, et ça pose des questions. Et donc l'établissement, par rapport aux demandes des familles des jeunes filles agressées, dit que pour l'instant il y a la présomption d'innocence. Voilà, toutes ces questions qui viennent un peu se mêler entre des situations qui prennent du temps au niveau de la justice et puis la réalité de ce qui continue à se passer dans l'établissement.
Alors, on en revient à ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, vous, votre action, elle est disciplinaire dans l'établissement. Vous n'êtes pas tenu par la procédure pénale, puisque de toute façon, les deux actions n'ont pas le même objet. Et c'est tout le problème. La France a été condamnée pour les délais complètement, beaucoup trop longs en matière de justice, qu'elle soit pénale, familiale ou autre. Donc en fait, malheureusement, pour des plaintes, des fois, on a 2 ans, des fois, il se passe 1 an avant qu'on auditionne. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment, mais très lourdement, sur le fait qu'en fait, il faut agir au sein de l'établissement. Donc, le chef d'établissement peut tout à fait réunir un conseil de discipline qui n'aura rien à voir avec le fait que dans 2 ans, il y aura peut-être une condamnation pénale dans 2 ans. C'est-à-dire que le chef d'établissement, il peut prendre, s'il y a une agression sexuelle, il peut prendre une mesure conservatoire en attendant la convocation du conseil de discipline et convoquer son conseil de discipline. À ce moment-là, il fait ce qu'on a dit, il auditionne la victime, il auditionne éventuellement les témoins auprès de qui la victime s'est, comment dire, confiée. Je sais pas si ça s'est passé à une soirée, et du coup, il y a des gens qui ont vu. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il ne faut pas attendre 2 ans parce que du coup, enfin, pour la victime, là, du coup, on se retrouve avec. Donc après, je ne sais pas dans ce dossier-là parce que je n'ai pas les éléments, mais d'où l'enquête qui doit être faite. Il faut vraiment bien comprendre qu'il n'y a pas du tout identité entre l'infraction pénale, par exemple, une infraction de viol, c'est des définitions très, on va dire, strictes, avec le problème du consentement, etc. Alors que s'il y a l'ordre public au sein de votre établissement qui est perturbé, puis il y a une élève avec un certificat médical qui est dans un état d'anxiété et a une phobie scolaire, voyez, et qu'il y a des élèves, je ne sais pas si, où ça s'est passé l'agression, voilà, voir ce qu'il y a comme élément. Et est-ce que cet élève, par exemple, du coup, a des propos auprès de l'élève, la harcèle sur les réseaux sociaux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, enfin, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté là-dessus. Vous ne devez pas attendre l'issue de l'action pénale qui interviendra peut-être dans 2 ans. Vous devez agir tout de suite. Et si effectivement l'un de vous subit une agression sexuelle sur son lieu de travail de la part de son collègue d'Open Space, aucun adulte, on est d'accord, présent à cette conférence, n'accepterait de retourner travailler en étant confronté face à face comme collègue de bureau, quelqu'un qui l'a agressé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, vous êtes libre d'agir en faisant cette enquête contradictoire pour réunir des documents. Enfin, vous voyez, des témoignages. Après, je ne sais pas dans le cas en question, mais ça, on en discutera plus parce que ça fait partie du deuxième bloc. Mais en fait, c'est vraiment n'attendez pas pour engager votre procédure disciplinaire, n'attendez pas l'issue pénale.
Peut-être
Merci.
encore deux ou trois, peut-être deux questions, il est 54.
Après, moi, je peux déborder un petit peu, il n'y a pas de souci, hein, pendant un quart d'heure si vous voulez.
Non, on reste dans les temps.
D'accord.
Et sachant qu'on aura. Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, comme on aura d'autres temps avec vous, donc on pourra aussi voilà, réaborder si certaines questions sont en lien avec les autres blocs, vous voyez. Donc, on peut être encore deux, trois questions.
Selon l'article 40, un enseignant peut prendre l'initiative de faire un signalement auprès du procureur sans passer par le chef d'établissement. Est-ce qu'il y a une obligation de passer par le chef d'établissement? C'est la question.
Alors là, sur la chaîne hiérarchique, il faudrait que je vérifie parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, mais normalement, pour moi, c'est ouvert à n'importe quel fonctionnaire parce que ça se pose notamment quand… enfin, j'en vérifierai, mais si par exemple, vous voyez que votre supérieur hiérarchique commet des actes… normalement, n'importe quel fonctionnaire peut, enfin même doit… Mais normalement, ça, je vous répondrai la prochaine fois parce que je vérifierai, je ne veux pas vous dire de bêtises sur la chaîne hiérarchique, puisqu'effectivement, normalement, vous devez référer et ça doit passer par le chef d'établissement. Mais je crois qu'en cas d'inaction du chef d'établissement ou si le chef d'établissement ne veut pas faire, le fonctionnaire a tout à fait le droit de le faire lui-même.
Alors, c'est intéressant parce que y a, alors déjà, vous avez raison de le vérifier parce que on a bien souvent des personnels infirmiers qui posent cette question-là en sachant est-ce que je dois référer au chef d'établissement pour un signalement. Et puis, il y a des collègues, alors vous l'avez vu, il y a des collègues qui sont aussi dans. On a 60% de jeunes qui sont dans des établissements privés sous contrat et donc on a la question de collègues de l'enseignement privé sous contrat qui dit, ben oui, on n'est pas fonctionnaire. Et dans ce cadre-là, avec un contrat de droit privé dans un établissement privé sous contrat, aussi, quelle est la démarche? Est-ce que là, du coup, c'est obligation de l'employeur ou c'est carrément un autre pan du droit pour les établissements privés sous contrat?
Bah, c'est vrai que l'article 40 concerne les fonctionnaires. J'ai regardé ce point-là. Et effectivement, l'article 40 mentionne cette obligation pour les fonctionnaires. Donc c'est vrai que ça pose problème pour les établissements privés. Alors, ils sont dans une mission de service public, mais je creuserai cet aspect-là éventuellement, ces deux points-là, pour la, les, je vous répondrai le prochain bloc.
Ah oui, un grand merci parce que c'est vraiment très très important et ça revient vraiment très souvent.
J'avais regardé, et c'est vrai que comme ça s'adresse aux fonctionnaires, les chefs d'établissement des établissements privés en plus ont des contrats de droit privé, puisque les enseignants sont fonctionnaires, mais pas les. Donc du coup, ça veut dire que les enseignants qui sont fonctionnaires dans les établissements privés ont cette obligation. Mais c'est vrai que dans l'absolu, le chef d'établissement qui a un contrat de droit privé, ce n'est pas un fonctionnaire.
Exactement, et on a le cas, et j'ai vu qu'il y avait Béatrice Marchand, qui est donc notre référente au niveau de la Fédération nationale des maisons familiales et rurales, et je pense que ça sera vraiment très intéressant d'avoir ce pan-là pour les établissements privés sous contrat. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question?
Juste peut-être vous relayer voilà des remarques. Bon, vous avez répondu, me semble-t-il. Je vous les cite les trois principales. Les établissements sont souvent informés tardivement des faits de cyberharcèlement. Comment les déceler plus rapidement? Quelles actions lorsque les familles, oui, quelles actions lorsque les familles ou les élèves se servent du mot harcèlement pour s'en prendre à un autre jeune? Et puis aussi la question de démêler le vrai du faux, en gros, hein, pour le dire autrement, comment faire pour savoir le début des histoires de harcèlement, le harceler à lui-même générer des problèmes, vous l'avez évoqué dans la notion d'enquête, voilà, mais je vous laisse répondre.
Oui, et ben justement, démêler le vrai du faux, c'est ce que je vous dis. En plus, comme maintenant, on a aussi des faux signalements, enfin des faux, vous voyez ce que je veux dire, des gamins en malaise qui vont dire « je suis harcelé », alors que des fois, ils sont à l'initiative. Donc, c'est pour ça que du coup… Attendez, excusez-moi, j'ai un problème de… d'où l'enquête contradictoire pour essayer d'avoir des faux, des faits, pardon. Attendez, vous pouvez me redire ce que j'ai zappé les autres questions.
C'était bon, lorsque les familles emploient de manière un peu abusive le mot de
Voilà,
harcèlement,
c'est
c'est
pour
un
ça
peu le même registre.
que j'en reviens toujours à mon enquête. En fait, il faut demander des faits, qui est témoin. et avoir la version des trois. C'est pour ça que ça, je pense que ça peut être fait en 8-10 jours maximum. Parce qu'en fait, sinon, vous n'avez aucun moyen. Donc, moi, je vous dis, je leur fais prendre une feuille A4 et je leur dis, ben voilà, on va vous mettre les faits. C'est quoi les faits? Et en fait, quand c'est des. Dire je suis harcelée, mais qu'on est incapable de dire un seul fait, je veux dire, quand on est harcelé, on sait qu'on s'est fait traiter de gros con, de grosse vache, de machin, qui s'est passé ici. Donc, c'est du factuel, en fait. Et du coup, donc, il y avait ça. Après, c'était quoi le, pour vous, c'est le.
Oui, la première, c'était une vraie question, c'était comment déceler plus rapidement les faits de cyberharcèlement.
Oui, alors là-dessus, moi, j'ai un conseil. À chaque fois qu'il y a un élève qui vous dit que quelqu'un l'embête, vous lui demandez. C'est vous qui lui demandez si sur les réseaux sociaux, on lui dit pas des choses aussi insultantes ou blessantes ou etc. Après vous, vous avez aucun moyen d'aller sur les groupes WhatsApp et compagnie sur lesquels vous n'êtes pas. Après moi, tout ce que je peux vous dire, enfin vous devez le savoir mieux que moi, les groupes WhatsApp de classe c'est du poison quoi. Donc peut-être au début de l'année dire que sur les groupes WhatsApp de classe aucune insulte ne sera tolérée, etc. Aucun, parce que enfin, ces groupes de classe, enfin des fois même entre parents, les gens viennent. Enfin ça, je sais pas votre vécu là-dessus, mais donc peut-être prendre l'initiative quand il y a des faits dans l'établissement, de poser la question à un élève qui dit subir des violences, etc. De dire est-ce que on peut regarder ensemble, est-ce que sur le WhatsApp de classe ou sur l'Instagram, est-ce qu'il y a aussi des choses qui te blessent? Donc prendre cette initiative. Sinon, malheureusement, vous n'avez aucun moyen. Et ça, d'ailleurs, juste notez-vous-le, parce que c'est un problème qui se pose. Vous n'êtes pas policier, ce qui fait que vous ne pouvez regarder dans le téléphone que si les élèves vous autorisent à le faire. Donc vous ne pouvez pas, enfin moi j'ai déjà vu des cas où la CPE, elle prend le téléphone, elle dit bon c'est quoi ton code, etc. Dans l'absolu, si l'élève ne consent pas, vous n'avez pas le droit. Il n'y a qu'un officier de police judiciaire qui peut de force. Voilà, alors évidemment, quand la victime vient vous voir en vous disant bah voilà ce qui est arrivé, dans ces cas-là, vous pouvez lui demander, prendre des captures écran, etc. Mais il faut le consentement du titulaire du téléphone.
Merci énormément pour tout, pour cette conférence, pour ces échanges. Je sais, j'ai vu, il y a beaucoup de questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions. On les a notées. Donc, les collègues l'ont fait. Et peut-être d'abord conclure en vous remerciant, Maître Piot, pour la qualité de cette conférence et des échanges, qui est vraiment primordiale, puisque l'objectif de notre système de formation, le premier objectif, c'est de garantir la sécurité physique, mentale, morale des jeunes de notre système de formation, quelle que soit la structure qui accueille ces jeunes. Donc pour moi, c'est vraiment crucial en tant que chef du bureau de l'action éducative et de la vie scolaire. Et je voulais terminer par rapport à ce que vous disiez. Je pense qu'il est très important à la rentrée scolaire, avec les familles, avec les jeunes, avec les équipes, de rappeler à la fois ce qu'est le harcèlement, de rappeler ce que fera le chef d'établissement dans une situation de harcèlement. Que ce soit clair pour toutes et pour tous, et que le processus soit clairement identifié par les uns et par les autres, pour que à la fois ceux qui potentiellement pourraient être victimes sachent comment ça va être mis en place, et que pour les auteurs, rien ne sera accepté dans notre système de formation dans le cadre de toute violence et discrimination. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous maintenant au mois de janvier.
Oui.
Pour le second bloc. Donc, je rappelle à tous les collègues que tout est sur Chlorophyll. Je laisse peut-être François le remettre, si ce n'est pas déjà le cas, sur le lien très rapide pour que chacun puisse y aller et avoir à la fois la date, le contenu, mais également les coordonnées de connexion. Merci beaucoup encore une fois, Maître Piot. À très bientôt. Merci aux collègues d'avoir pris du temps aussi pour être avec nous. Je sais que votre temps est souvent très compté. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Merci beaucoup à tout le monde. À très bientôt.
Merci, bon week-end.
Merci beaucoup, au revoir.